France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Pardon, darling. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Nous avons lu le Dormeur du Val. Nous savons que si Rimbaud le berce, pâle dans son lit vert où la lumière pleut, c'est qu'il ne dort pas. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Et nous en avons vu tant d'autres depuis, de ces enfants qu'on croirait endormis, mais que la guerre a assassinés. Nous en avons tellement vu qu'il est difficile désormais de soutenir leur regard clos et de ne pas voir en transparence, dans ces images du passé, figures apparemment innocentes de jeunes héros sacrifiés à l'effort de guerre, ce qui nous hante aujourd'hui. Les enfants dans la guerre et la guerre faite aux enfants. Alors, regardons celui-ci par exemple. Bara, jeune soldat révolutionnaire, tué le 7 décembre 1793 dans une bataille de la guerre de Vendée. Et près d'un demi-siècle après sa mort, Bara, ou plutôt sa sculpture faite par David d'Angers en 1838, pour en raviver le souvenir. Allons y voir, avec Stéphanie Deschantanes, Manon Pignot et Guillaume Mazot, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Éléonore Chaline. Car si nous pouvons voir cela aujourd'hui, c'est parce qu'un enfant est mort, mais aussi parce que quelqu'un, à un moment, a décidé de rendre sa mort exemplaire. La guerre a parfois un visage d'enfant, oui, mais parce que toutes les guerres s'accompagnent d'une politique de l'image. Il y eut un jour, à la fin de l'année 1793, où Robespierre décida de nous faire voir celui qu'il destinait au Panthéon, l'enfant Bara.
Les valeurs morales qui justifient le choix de Robespierre sont principalement la pureté et la vertu. La pureté à travers la figure d'un très jeune homme, d'environ 13 ans, qui n'a pas de passé politique, éventuellement controversé ou dangereux, et la vertu s'incarne dans un jeune soldat qui fait profiter à sa famille indigente de sa solde et qui se sacrifie au combat, qui meurt au combat en criant « Vive la République !» Donc finalement un sacrifice anonyme quasiment, mais qui sert d'exemple à toute la communauté nationale.
C'était Philippe de Carbonnière, conservateur au musée Carnavalet en 1999. Bonjour Stéphanie Deschantanes.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conservatrice au département des sculptures du musée du Louvre. Vous êtes commissaire d'une exposition qu'on a pu voir jusqu'au 8 juin au musée de Tessé au Mans et qu'on pourra voir à partir du 10 juillet et jusqu'au 3 novembre au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Son titre, Sage comme une image, l'enfance dans l'œil des artistes 1790-1850. Avec Côme Fabre, vous en dirigez aussi le catalogue, le beau catalogue paru aux éditions Liénard. Sage comme une image, point d'interrogation, parce qu'il peut être aussi rebelle, pauvre travailleur ou enfant prodige. L'enfant dans l'art du 19e siècle, c'est un sujet politique et à vous lire, c'est presque une affaire d'État.
Effectivement, c'est une affaire d'État. Pendant cette première moitié du 19e siècle, on voit un changement dans la représentation des enfants qui deviennent un enjeu pour la société, qui va se saisir de la préoccupation de leurs droits, de leur défense aussi. Et il y a une nouvelle incarnation aussi de l'enfant au sein de la cellule familiale qui va intéresser les artistes, qui vont les portraiturer et les mettre en scène.
Merci, bonjour Manon Pignot.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence habilitée à diriger des recherches à l'université de Picardie. Jules Verne, historienne de la Première Guerre mondiale, des jeunesses combattantes, de l'expérience enfantine de la violence. On vous doit des livres importants, fondateurs, sur le sujet « La guerre des crayons, quand les petits parisiens dessinaient la Grande Guerre » chez Paris Gramme en 2004, « Allons enfants de la patrie, génération Grande Guerre au seuil en 2012 » et « L'appel de la guerre, des adolescents au combat 1914-1918 » chez Anna Moza en 2019, qui a reçu de nombreux prix. Vous êtes commissaire avec Anne Tournieroux d'une exposition formidable qui s'est tenue à la Contemporaine à Nanterre, « Enfants en guerre, guerre à l'enfance ». On ne peut plus la voir, mais reste le superbe catalogue publié également chez Anna Moza. Vous y expliquez au fond que les enfants dans la guerre, c'est une guerre dans la guerre.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, en tout cas pour l'époque contemporaine que je connais mieux, on assiste à une sorte de déplacement de l'attention où à aucun moment il n'est question de mettre les enfants de côté et de les protéger, mais bien au contraire de les intégrer au conflit, soit pour les mobiliser, soit pour les viser comme cible particulière.
Bonjour Guillaume Mazot.
Bonjour.
Vous êtes historien de la Révolution française, vous avez notamment travaillé sur la Terreur, et les auditrices et auditeurs de cette émission se souviennent peut-être que nous avions beaucoup parlé, lorsqu'on évoquait le Marat assassiné de David, de votre beau livre paru en 2009 chez Champvallon, Le bain de l'histoire, Charlotte Corday et l'attentat contre Marat. Maître de conférence à l'université de Paris 1, Panthéon Sorbonne, vous aussi vous faites volontiers commissaire d'exposition à la Conciergerie ou au musée Carnavalet. Et puis aussi, vous intervenez au théâtre, à la télévision, pour exposer l'histoire face à sa mission émancipatrice. Histoire, c'est le nom de votre dernier livre, paru également chez Anna Moza en 2020, dans la petite collection Le mot est faible. Non, le mot n'est pas faible. Hein. Pour vous, histoire, c'est un mot fort.
Et oui, c'est un mot fort, parce qu'il fait l'objet de beaucoup d'appropriations, d'usages divers. Et évidemment, tout l'intérêt, quand on est historien, comme vous le savez, tous autour de cette table, c'est de le faire partager et de défendre aussi quelque chose d'exigeant et de partageable dans l'espace public, y compris sur des sujets qui ont paru marginaux pendant longtemps, et en particulier l'histoire des enfants.
Et d'abord, en regardant ce qu'on a sous les yeux, en constatant, en décrivant, Stéphanie Deschantanes, voilà, qu'est-ce que c'est le Barat Mourant ?
Alors, Barat Mourant, c'est une sculpture en plâtre, modèle en plâtre, a été fait par David Danger, qui est un grand sculpteur du 19e siècle, républicain convaincu, qui modèle cet enfant en 1838 et qui représente donc Barat allongé à même le sol, la tête penchée en avant.
Une chevelure romantique.
Une chevelure romantique, effectivement. Il est dénudé, en fait, ce qui est assez frappant. Il garde juste une chaussette à son pied gauche. Et surtout, il serre contre son cœur une cocarde, en fait, la cocarde tricolore, synonyme de son engagement révolutionnaire. Et il tenait à l'origine dans sa main aussi les baguettes de son tambour qui rappellent son rôle dans l'armée révolutionnaire.
La cocarde, les baguettes du tambour, on est dans cette imagerie révolutionnaire. Guillaume Mazot, qu'est-ce que vous voyez d'autre pour décrire ?
Alors moi, c'est la chaussette qui m'attire beaucoup.
Laquelle ? Parce qu'il y en a une aussi qui cache son sexe.
Alors oui, alors c'est la chaussette qui porte encore à son pied. Mmh. Parce que là, c'est le temps. Le temps court, c'est-à-dire celui de l'escarmouche pendant laquelle il a perdu la vie et il a été attaqué donc par des soldats vendéens dont on suppose, alors on sait pas trop, mais voilà, qu'il a été dénudé, que ses enfants ont été arrachés. Donc cette chaussette, c'est un peu le temps. Le temps dans cette immobilité gisante.
Et vous, Manon Pignot, qu'est-ce que vous voyez ?
Ben moi, je vois d'abord un garçon qui dort.
Oui.
Et peut-être aussi la question de son âge, parce que est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un jeune homme, est-ce que c'est un adolescent ?
Alors le vrai Joseph Barat, c'était un adolescent.
Le vrai Joseph Barat, c'était un adolescent, mais dans ses représentations successives, son caractère enfantin est toujours davantage accentué que sa juvénilité de presque jeune adulte.
David Danger, sculpteur républicain,
avez-vous dit, Stéphanie Deschantin ? Alors à ce moment-là, en 1838, il est au fête de la gloire, prix de Rome, professeur aux Beaux-Arts, membre de l'Institut. C'est lui qui a fait la frise du Panthéon. Oui, pardon, du Panthéon, oui, évidemment. Oui. Et il a plein de commandes publiques.
Oui, en fait, c'est le sculpteur qui va aussi mettre en place une formule pour honorer le grand homme dans l'espace public, toujours avec une statue en pied et des bas-reliefs qui viennent illustrer les grands faits.
Sauf que ça, c'est pas une commande publique.
Non, justement. C'est très intéressant et c'est certainement aussi à relier à l'histoire personnelle de David d'Angers, puisqu'il a suivi son père lors des guerres révolutionnaires. On sait qu'à l'âge de 5 ans, il était sur les routes. Et donc, peut-être lui-même, disait-il dans ses souvenirs, a-t-il croisé Barra. Donc, en fait, il fait un lien entre son histoire personnelle et la grande histoire. Et surtout, il veut mettre en valeur le sacrifice de cet enfant dont il juge qu'on a oublié les hauts faits et qu'il n'a pas eu la panthéonisation qu'il méritait.
Alors, si on s'en tient à la grande histoire, eh bien, elle doit faire avec peu de traces, hein, Guillaume Mazot, de cet enfant ou de cet adolescent. On connaît sa date de naissance, sa date de mort. Et c'est à peu près tout. Tout le reste, d'une certaine manière, c'est une reconstruction mémorielle.
Eh oui, comme beaucoup d'enfants, d'ailleurs, de cette époque-là et d'autres, hein, quelque part, son histoire a été appropriée, racontée, son corps et sa mort ont été montrés par des adultes. Mmh. Et donc c'est une histoire d'un enfant à travers le regard des adultes qu'on peut raconter souvent de Barra. Voilà, c'est des choses qui traversent le temps. On sait même pas grand-chose sur sa mort. Est-ce qu'il était en train de raccompagner deux chevaux? Il s'est fait attaquer à ce moment-là.
En tout cas, il est dans l'armée, oui. L'armée révolutionnaire. Et ça, c'est pas si étonnant que ça. Dans les armées d'Ancien Régime, effectivement, les enfants suivent leurs parents. C'est ça, Manon Pignot?
Oui, alors, dans les armées d'Ancien Régime, il y a les suiveurs. Ouais. Les suiveuses d'armée, donc il y a les femmes qui souvent d'ailleurs emmènent leurs enfants avec elles. Et puis dans le cas des guerres révolutionnaires, il y a des phénomènes d'engagement familiaux en fait. Ouais. Donc, il y a un père ou un frère aîné qui va rejoindre au moment de la levée en masse les armées révolutionnaires. Et donc c'est assez fréquent qu'il y ait des jeunes garçons qui s'engagent avec leurs aînés.
Là, on dit tambour, on dit estafette, mais en fait on n'en sait rien.
On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que il représente pour les républicains de 1793 et 1794 un peu le prototype de la nation en armes. C'est-à-dire, c'est comme si un enfant combat et meurt au combat, ça veut dire que toute la nation est en armes. C'est-à-dire que c'est un peuple, c'est pas une armée de professionnels, ni de mercenaires, etc. C'est tout un peuple qui se bat pour une cause, celle de la République. Et ce qui est vrai, c'est que dès 1789, donc dès toute première semaine dans la Révolution, un peu partout, il y a des enfants qui jouent à faire la guerre, qui travaillent, qui sont dans les rues, qui participent aux ce qu'on appelle les journées révolutionnaires. Mmh. Et très vite, il y a pas mal de témoignages d'enfants, par exemple, qui s'échappent de l'hôpital général de la Pitié, qui demandent à être enrôlés dans les gardes nationales, et on leur trouve une place. Donc, oui. Alors après, qu'est-ce que c'est les enfants? Qu'est-ce que c'est? Quel âge ont les enfants à cette époque-là? C'est toute une autre question.
Stéphanie?
Oui, effectivement, vous insistiez sur le caractère préadolescent en fait de Barra. On conserve aussi des bustes de Barra qui ont été faits par la manufacture de Sèvres, par Brachard, avec la volonté de les diffuser. Et on insiste effectivement sur le caractère très enfantin de ce jeune homme. C'est vrai que les limites entre enfance, préadolescence, adolescence, qui sont des concepts plutôt modernes, sont brouillés par cette vision de cet enfant mort.
Alors, on est dans une histoire révolutionnaire. On est évidemment, on va y revenir, dans cette guerre civile franco-française qu'est la guerre de Vendée. Et donc, la construction de la mémoire de Barra, elle commence d'abord par un tableau inachevé de David. Écoutez ce qu'en dit Alain Jouffroy au micro de France Culture en 2001.
Dans le Barra, le Joseph Barra de David, il faut pas oublier l'anecdote qui a justifié le fait qu'il ait peint ce tableau en hommage à ce petit garçon tambour républicain qui luttait contre les Vendéens. Et comment le représente-t-il? Il est mort tué par les Vendéens dans son uniforme. Or, que fait David? Il enlève tous ses vêtements et on voit quoi? Un jeune homme charmant dont le sexe n'est pas vraiment visible, très ambigu. Il a une longue chevelure féminine.
On n'est pas très loin de la figure de l'hermaphrodite antique.
On est tout près. Et d'ailleurs, Donc, c'est aussi un autre point commun, c'est que cet hermaphrodite antique, qui était exposé à Florence, fait l'objet de commentaires dans le journal de Sade dans son voyage en Italie, et comme par hasard, ça devient le modèle de David pour son Bara. Oui, et on est là à l'interférence d'une sorte d'érotisme inconscient ou semi-conscient et du discours politique. Comment est-ce qu'on peut concilier dans un même tableau des pulsions ou des fantasmes sexuels et puis un hommage à un jeune républicain mort?
Ça, c'est évidemment toute la question qu'on va poser dans cette imagerie révolutionnaire hein, du héros martyr. Mais justement, pourquoi à ce moment-là choisir Guillaume Mazeaud, un enfant innocent? C'est Robespierre, on l'a dit, qui s'empare de cette image qui lui arrive en fait par une lettre du général Desmarres. Racontez-nous l'histoire.
Alors Desmarres sous lequel Barra était sous les ordres, enfin il était sous ses ordres, envoie effectivement une lettre pour c'était commun pour demander une pension pour ses parents et pour rendre hommage à l'enfant mais pour aider
lui
la famille.
Desmarres à ce moment-là, voilà. Il est donc près de Cholet hein, oui. et c'est des batailles très dures hein,
quand voilà, même. C'est ça, on est à la fin de l'année 1793 et on est après ce qu'on appelle la virée de Galerne, c'est-à-dire l'errance de l'armée catholique et royale jusqu'à Granville. Ils reviennent vers le sud et là, c'est vraiment les grandes victoires républicaines. Le 12 décembre, c'est la bataille du Mans. Enfin, et donc c'est défaite sur défaite et c'est voilà. Donc à ces occasions-là, c'est des populations civiles qui se font massacrer par les troupes républicaines. Donc à partir de la fin 1793 et ensuite des 6 premiers mois de l'année 1794, il faut prouver que les atrocités sont commises par les royalistes.
C'est martyr contre martyr.
Voilà.
Et en plus, lui, le général Desmarres, il a un petit problème, c'est que son supérieur, Thureau, il est bertiste, sans culotte, et lui, il est plutôt dantoniste, et donc il doit faire un peu de surenchère, non ?
Alors, il y a évidemment plein de jeux. Alors, c'est aussi ça, la Révolution, ça, c'est compliqué à comprendre, mais il y a évidemment des positionnements à l'intérieur de l'armée républicaine qui expliquent que promouvoir son martyr, c'est aussi se sauver soi-même, sauver sa peau dans la Révolution et se promouvoir soi-même.
Et pour Robespierre, Barra, puis après Viala, un autre enfant innocent, c'est un peu l'anti-Marat aussi, il essaye lui aussi de jouer un jeu.
Alors, c'est le plus que Marat, je dirais.
D'accord.
C'est-à-dire que, en fait, donc Marat, député de Paris, journaliste, assassiné chez lui, alors qu'il prenait un bain par une jeune inconnue, royaliste, Charlotte Corday, dont David fait le tableau un peu comme une pléta, en l'ôtant de son événement et en effaçant l'assassin. C'est quand même une citation visuelle, hein, en ce sens, à ce Barra qui est allongé, dont on a perdu tout le contexte. Voilà, ce qu'il fait de Barra en 1794, donc David, il fait un peu la même chose, mais encore plus, parce que quand même, Barra, il traînait derrière lui une sale réputation, disons-le.
Alors que là, c'est voilà. L'innocence.
Alors que là, c'est l'innocence complète,
ben,
un enfant.
Ben oui.
Voilà, c'est l'innocence tuée.
Et donc là, David, peintre révolutionnaire, sert de modèle d'évidence à David d'Angers, qui le dit d'ailleurs. Mais c'est un passage aussi qui vous intéresse en tant qu'historienne de l'art, Stéphanie Descantane, parce que c'est le passage de la peinture à la sculpture.
Oui, effectivement, et il y a des liens très forts. Et David d'Angers connaissait parfaitement le peintre David. Il était passé dans son atelier, donc effectivement, il avait une connaissance du projet de peinture, du projet davidien. Mais ce qu'il va apporter, lui, c'est une plus grande franchise, finalement.
Oui.
C'est une sorte de réalisme très fort dans la représentation de ce corps, de ce cadavre, il faut le dire, d'enfant. Et il voulait d'ailleurs que sa sculpture soit présentée à même le sol, le plus bas possible, pour montrer cet enfant mort sur un champ de bataille. C'est vraiment les termes qu'il utilise lorsqu'il offre son modèle en plâtre au musée d'Angers.
Vous parlez de cadavres. Écoutez ce qu'en disait Pierre Descargues, toujours sur France Culture, en 1988.
David d'Angers, à peine plus âgé que Géricault, est de cette génération qui fréquente dans les hôpitaux les amphithéâtres d'anatomie. Parlons clair, les salles de dissection du corps humain. Si Géricault a peint des membres coupés dans les cadavres, David, lui, va oser ce qu'aucun sculpteur n'avait tenté, montrer le corps abandonné, le corps du grand homme, sur la table de dissection pour servir à l'instruction des carabins. Il raconte comment il a montré un jour son projet de monument pour Gilbert à Châteaubriant.
« Je veux le faire voir aux prises avec le plus triste sort. Il sera représenté sur la table de dissection, tenant à la main le papier sur lequel ont été écrits ses derniers vers si touchants. La boîte de scalpel sera auprès de lui, comme signe pour indiquer ce qu'il sera fait sur son corps. Je le ferai beau. Je m'arrêterai au seuil de l'accomplissement du drame. » Tandis que je parlais, Chateaubriand avait le coude appuyé sur la cheminée et il tenait son mouchoir sur ses yeux pour cacher d'abondantes larmes.
Nous aussi, nous toutes et tous dans le studio. Je le ferai mort. Donc voilà, là tout commence à se disposer, l'anatomie, Barat mourant et l'érotisme aussi, Manon Pignot. D'une certaine manière, la grammaire de l'enfant en guerre exalté par la propagande, c'est bien de ça dont il s'agit, et maintenant sous nos yeux.
Oui, alors moi je suis pas historienne de l'art, donc moi elle me fait davantage penser la nudité de cet enfant. Elle me fait penser exactement à la même époque, au tableau par exemple de Delacroix sur les massacres en Grèce de la guerre d'indépendance grecque, où il y a beaucoup de corps d'enfants nus aussi, alors qu'il y a d'autres cadavres autour qui sont habillés, et il y a des corps, parce que la nudité, voilà, c'est l'innocence absolue et c'est la fragilité la plus absolue. Je pense que c'est insister sur la fragilité de Barat, alors que on y reviendra, mais dans les représentations ultérieures, et notamment celle de la Troisième République, Barat est toujours habillé.
Oui, oui, bien sûr.
Et souvent encore vivant et souvent debout.
David Danger, vous l'avez dit, c'est un républicain, tellement républicain d'ailleurs qu'après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est justement en Grèce qu'il s'exile. Et la cause grecque, c'était important aussi justement pour lui.
Oui, c'est vraiment, on peut parler d'un artiste engagé en fait, lorsqu'on parle de David Danger. Et il a sculpté notamment la tombe de Marco Bozzaris, dans lequel il met aussi en scène l'innocence de l'enfance, puisqu'on y voit une jeune fille en train de déchiffrer le nom de ce héros.
Oui, mais qui elle aussi est nue.
Qui elle aussi est nue.
D'une manière qui est plus difficilement justifiable.
Je pense qu'il faut plutôt y voir justement un symbole de l'innocence. Je ne parlerai pas d'érotisation du corps qui peut-être est plus liée à notre regard contemporain. Les artistes sont pétris aussi de références antiques, effectivement, l'hermaphrodite endormi, ou des figures très sinueuses, et on pense à des artistes contemporains comme Bozio, par exemple, qui va traiter du sujet de Hyacinthe, donc représenter aussi un jeune homme nu. Mais il n'y a pas une volonté d'érotisation, c'est vraiment la beauté aussi peut-être du corps, son innocence qui est mise en valeur.
Mais sur l'ensemble des œuvres que vous exposez justement dans cette belle exposition, Sage comme une image, point d'interrogation, parce qu'on voit bien qu'ils sont pas sages et que ce sont pas des images, vous affrontez quand même cette question de la nudité et du regard qu'inévitablement on pose sur elle aujourd'hui.
Oui, effectivement, dans la dernière partie de l'exposition, nous parlons du corps de l'enfant comme modèle pour les artistes. Et finalement, on a constaté à travers l'étude de la critique d'art que c'est un sujet qui ne va pas plaire, en fait. Puisque ce qui est considéré comme beau, c'est le corps de l'adulte, le corps achevé, mature. Celui de l'enfant, il est encore en transition, finalement. Donc il ne représente pas ce beau idéal que recherchent les peintres et les sculpteurs, en particulier dans les années 1830.
Barat, il aurait dû être panthéonisé le 10 Thermidor en 2. Et évidemment, c'est sans doute pas un hasard, le 9 Thermidor, parce que ça aurait été une grande fête en faveur de Robespierre. Robespierre tombe le 9, donc il sera jamais panthéonisé. Et d'une certaine manière, son souvenir disparaît assez vite, non, Guillaume Bezeau?
Alors pourtant, il y avait tout un outillage qui avait été quand même créé pendant plusieurs mois. Barat et puis Joseph Agricole Valla, un autre enfant mort dans les combats, deviennent Alors, à travers des bustes, des images, mais aussi des récits dans les catéchismes républicains, il y a beaucoup d'estampes, etc. Dans les fêtes, ils sont honorés comme ce qu'on appelle les martyrs de la liberté, comme l'ancien maire de Lyon, Chalier, Marat. Mais c'est vrai que ça va pas beaucoup survivre à Robespierre, parce qu'ils font quand même partie, ils sont identifiés comme partie prenante d'un outillage quand même très politique, venant donner un peu de sacralité à la République, mais à une République qui, en même temps, porte la guerre civile. Mmh. Et que, précisément, l'exécution de Robespierre, le 28 juillet 1794, le dit Thermidor en deux, vient arrêter ce cycle-là. Et donc, voilà. Alors, ils vont pas être complètement oubliés, puisque ça ressort après, ça va être repris. Mais, et puis, il y a des images qui montrent des urnes projeté de Barat au Panthéon, on l'imagine au Panthéon, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu identifié comme faisant partie d'un projet attaché à Robespierre pour continuer à être très républicain.
Alors à ce moment-là de l'émission, on pourrait vous faire entendre évidemment l'enfant au tambour de Nana Mouskouri, mais on va vous faire entendre la reprise de cette chanson par les Jackson 5, 1970. Barat mourant de David d'Angers en 1838 et cet enfant nu, innocent, en train de mourir, on a l'impression qu'il dort. Il était au bord de rentrer au Panthéon et puis non, il reste là à ce moment-là parce qu'un artiste engagé va réactiver sa mémoire. Mais le vrai moment, au fond, Manon Pignot, de républicain, de l'imagerie de cet enfant martyr, sacrifié pour la cause révolutionnaire, ben, il est postérieur, c'est les années 1880, non ?
Oui, absolument, c'est la Troisième République, et plus précisément le moment de la conquête du pouvoir par les républicains de gouvernement, donc à partir de 1879, et cette réactivation de la légende de Barat, et secondairement, beaucoup moins importante de celle d'Agricole Viala, en fait, elle s'inscrit dans l'ensemble des dispositifs mis en place par ces républicains de la Troisième République d'exaltation du souvenir de la Révolution française.
Donc, sauf que l'image n'est plus la même. Vous l'avez dit, c'est une image redressée, habillée, glorieuse.
Voilà. Barra devient une sorte de modèle qui est offert aux écoliers français dans la lignée des lois scolaires de Ferry en 1880-82. Un modèle offert aux écoliers, un modèle de bravoure, un modèle de courage, un modèle aussi de sacrifice pour la République. Et les représentations, et là il y en a beaucoup, des tableaux notamment, et les représentations de Barra, cette fois-ci, ce sont des représentations en uniforme.
Oui.
Il a d'ailleurs des uniformes souvent très richement, vraisemblablement très éloignés de la réalité de la tenue de Barra sur le champ de bataille en 1793, avec des galons, avec un pantalon, des vestes, des brodequins, etc. Et puis surtout, il peut être représenté sur le point de mourir, mais il est aussi parfois représenté debout. Il y a un tableau particulièrement célèbre de Wertz. C'est le moment où Barra est transpercé par les piques et les lances des Vendéens. Et il a une espèce de posture, il est comme projeté en l'air. Enfin, il y a un côté martyr de Saint-Sébastien, quoi.
Oui.
Mais laïque et républicain.
Et rappelons, Stéphanie Descantanes, que à ce moment-là, ce sont les œuvres que vous avez aussi exposées dans « Sage comme une image ». C'est pas les seuls. Il y a aussi beaucoup de ces représentations où on voit les enfants avec leurs parents ou justement vêtus de l'uniforme de leur père. Donc on est dans cette transmission du souvenir.
On est dans la transmission du souvenir et les enfants se doivent, notamment lorsqu'ils sont héritiers d'une famille noble, aristocrate, de prendre les armes, de porter les armes et de faire une sorte de carrière militaire. Dans l'exposition, nous montrons un portrait d'un jeune garçon de la Borde qui est représenté avec l'uniforme militaire qui était celui de son père, qui est mort au combat à Wagram. Et il est en train de couronner le buste en marbre de son père défunt. Et on sent bien qu'à travers ce portrait, c'est toute l'histoire d'une famille en fait qui est mise en scène et que ce jeune garçon a un destin tout tracé devant lui, qui est celui de prendre une carrière militaire et de prendre la succession de son père, en fait.
À ce moment-là, Guillaume Mazot, le thème de la nation en armes, évidemment, reprend son actualité et fait vibrer les enthousiasmes républicains.
Et oui, il s'agit de montrer que cette armée, contrairement aux armées européennes qui font la guerre à la République française, contrairement à celle-là, eh bien, elle est faite d'une adhésion des volontés de toutes les familles. Et d'ailleurs, cette difficulté à faire des enfants, même quand ils sont au combat, des acteurs autonomes, des individus autonomes de l'histoire, elle se lit aussi dans le tableau de David, dans la sculpture et dans le plaque là de David d'Angers, puisque c'est à travers peut-être le papier, la lettre que Barra aurait tenue et envoyée à sa mère. Et Barra est censé, sur certaines gravures, avoir nourri sa mère,
ah oui,
dit-on, c'est-à-dire lui envoyer sa solde. Donc un enfant qui nourrit sa mère, alors c'est merveilleux. C'est l'enfant plus que parfait.
Oui, c'est pour ça que Jean-Clément Martin dit que ce n'est pas qu'un héros de papier, parce qu'il n'est pas simplement l'invention de ceux qui veulent l'exalter. Et on rejoint au fond ce que vous avez montré aussi, Manon Pignot, c'est qu'on ne peut pas considérer seulement les enfants en guerre comme des victimes. Vous, le papier, justement, vous avez montré comment l'enfant, il dessine, comment il écrit, il décrit sa guerre.
Et comment il s'approprie l'événement.
La vérité
aussi
de la guerre, elle est là, elle est dans le papier que tient l'enfant.
Oui, je crois que c'est, en tout cas, c'est une caractéristique des expériences enfantines des guerres de l'époque contemporaine, et en particulier du XXe siècle, c'est la manière dont les enfants vont prendre leur part de ces conflits. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sont des victimes, et souvent prioritairement des victimes, mais ce sont aussi des acteurs. Et donc, comme tous les acteurs sociaux, ils vont observer, décrire, représenter, parfois, ce qu'ils voient. Alors, ils sont rarement en première ligne, sauf que dans certains cas, notamment des cas d'adolescents, il y en a, par exemple, pendant la guerre de 14, qui vont chercher à rejoindre le front pour combattre. Et ce qui est intéressant, c'est que le souvenir de Barra, qui a été, on vient de le dire, particulièrement été réactivé dans les années 1880, ensuite il retombe un peu en désuétude dans les années 1890-1900, et au moment de la mobilisation de la société française en 1914. Hop, on voit réapparaître Barra dans les leçons d'histoire à l'école, dans les illustrés pour enfants. Voilà, la légende de Barra réapparaît et elle est montrée en exemple. Et c'est assez paradoxal parce qu'elle est à la fois donnée en exemple tout en étant accompagné d'un discours qui dit aux enfants, mais ce qu'on vous demande, c'est pas de prendre les armes et de partir. Mais en même temps, inspirez-vous de ce modèle héroïque de Barra.
Vous savez ce que fait Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création à Beaubourg. Il nous envoie des cartes postales.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, quel malheur pour un gosse que d'avoir un prénom. Et quelle étrange coutume mortuaire aussi. Qu'un de ses petits disparaisse et l'humanité trébuchera sur son patronyme, tenant le frêle corps suspendu par son seul prénom dans sa fragilité d'enfance, l'y enroulant au seuil d'une vie sociale à jamais ajournée, son existence interrompue comme une phrase, sa trajectoire indécidée comme celle des nouveau-nés morts avant le baptême et pour qui, impuissante à trancher entre salut et damnation, l'Église eut autrefois à inventer les limbes. Grégory, Laetitia, Estelle, Louise encore, il y a peu. Manière aussi, dans le retrait du nom, de retrancher la parentèle, l'extraction ou l'état civil. Geste où se lit peut-être le souci de ne pas inscrire la jeune victime dans la communauté étroite d'une famille, d'une nation, pour que rien ne restreigne l'horizon de la sollicitude, pour confier ses pupilles aux soins du genre humain. À moins qu'il ne s'agisse à l'inverse de retremper dans le drame cette douleur de bête exclusive et jalouse qu'éveille l'infortune lorsqu'elle frappe au creux de la sphère privée. Ce môme, ce pourrait être le vôtre, le mien, et vous voilà et me voilà à en brandir la mort à la face des autres, à flairer s'ils s'en rendirent coupables, à leur promettre mille souffrances. Ainsi le prénom des enfants s'écartèle-t-il tantôt au-delà des frontières, vers ce qu'on pourrait nommer une cosmopolitique du chagrin, et tantôt en deçà, vers la vengeance et vers le clan. Elle n'avait pas mal vu avec Sophie, la comtesse de Ségur. Quel malheur pour un gosse que d'avoir un prénom. Depuis la naissance de la photographie, les prénoms vont avec des visages. Clichés arrachés aux albums de famille, portraits reproduits à l'envi par la presse, images jurantes avec l'inimaginable. Il y a aussi des enfants morts sans image et sans prénom. Très nombreux et très nombreux ces jours-ci sur les rives de Palestine, n'en rien dire ici serait participer de leur effacement. Je voudrais toutefois m'arrêter sur l'étrange cas inverse, celle d'un prénom d'enfant qui nous reste en mémoire dans l'éclipse de son visage. Se devine seulement une paupière, ombrée de cils, l'oreille ourlée comme un coquillage, le reste disparaît contre le sable. D'ailleurs, sa tête tourne, ses traits s'évasent dans les vaguelettes qui viennent elles aussi mourir sur le rivage. Son corps, aux paumes tournées vers le ciel, mime cette détente absolue, désarmante, qui nous amuse et nous émeut quand le sommeil, sans prévenir, vient au tout petit. Eylan. Eylan, retrouvé mort sur une plage turque le 2 septembre 2015, a bien un nom, Kurdi. Connu dès que son père, survivant du naufrage, vint l'identifier à l'hôpital. Nom bientôt oublié, comme celui de la photographe Niloufer Demir, dont l'image fit le tour du monde. Coordonnée éclipsée par la superposition de son prénom à l'absence de son visage. À moins que, justement, ce soit cela, un visage. Dans un entretien de 1988, le philosophe Emmanuel Levinas le formule de manière très claire. Je cite « Vassili Grossman raconte dans Vie et Destin comment à Lyubyanka, à Moscou, les personnes faisaient la queue en lisant chacun sur la nuque de la personne qui le précédait les sentiments et les espoirs de sa misère. » Grossman ne dit pas que la nuque soit un visage, mais que sur elle se lit toute la faiblesse, toute la mortalité nue et désarmée de l'autre. Il ne dit pas cela ainsi, mais le visage peut prendre sens sur ce qui est le contraire du visage. Fin de citation. Voilà qui est pour nous Eylan. Non une figure reconnaissable, mais une tête tournée dont le retrait même nous oblige, dont la disparition nous porte à comparaître absolument. Un enfant comme absenté dans son visage.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Et comme David Danger a sculpté Bara Mourant, on peut tourner autour et on peut le voir depuis sa nuque et ce visage dérobé. Et on en revient à votre première description, Manon Pignot. On dirait qu'il dort.
Oui, c'est peut-être la particularité des enfants. C'est que, plus sans doute que les adultes, pas que j'en ai vu énormément, mais à force de travailler sur la guerre, des photos de corps, malheureusement, j'en ai quand même vu un certain nombre. Et c'est rare que les corps d'adultes morts donnent l'impression qu'ils sont en train de dormir. Ouais. Alors que les corps d'enfants donnent toujours l'impression qu'ils sont en train de dormir.
C'est la beauté aussi du poème de Rimbaud.
Mais ce qui est vrai, dans ce que disait la carte postale, c'est que Hélène Courdy, il a, sans qu'on voit son visage, il a donné un visage aux réfugiés syriens, et d'une plus généralement encore, il a donné un visage à ce que c'était que l'exil et l'exode et la nécessité de les accueillir. Et d'ailleurs, cette photographie qui a fait le tour du monde, elle a ensuite été réutilisée par d'autres artistes,
oui,
qui se sont emparés de cette figure, qui ont essayé de la détourner, de la recomposer. Alors, il y a eu des pochoirs sur les murs des villes, il y a eu toutes sortes d'expression artistique, graphique autour, parce que elle était saisissante au-delà des mots, en fait.
Et ça, c'est ce que vous avez montré aussi dans ce livre Les enfants dans la guerre, la guerre en enfance, c'est que ça commence par cette phrase de Maurice Radjus que je trouve bouleversante. En fait, dans la tourmente, je le dis de mémoire, pardon, il n'y a pas d'enfant modèle.
Il n'y a pas d'enfant modèle, oui. Alors Maurice Radjus, historien, grand pourfendeur des violences policières et qui était petit garçon pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a échappé de peu à la rafle du Veldiv, contrairement à ses deux parents qui sont morts en déportation. Et parlant de son enfance, Maurice Radjus dit... dans la tourmente, il n'y a pas d'enfant modèle. Et cette phrase, je m'en suis servie pour ouvrir le catalogue, parce que, justement, elle venant d'un ancien enfant qui a fait cette expérience paroxystique de la guerre et de la persécution, c'est une manière de rappeler que les enfants sont des individus à part entière, et pas de pures images.
Mais il n'y a pas d'enfant modèle, mais il y a des modèles des enfants dans la guerre. Et il y a des politiques de l'émotion, et de Bara, nous ne saurons jamais rien, Guillaume Mazot, nous ne savons que ce que, effectivement, les révolutionnaires ont bien voulu en dire. Et on est là devant, effectivement, ce David Danger qui en poursuit la reconstruction mémorielle.
Oui, en faisant un coup de force, hein, en 1793, parce que les massacres de populations civiles, dans l'Ouest, c'est quand même bien les armées républicaines qui les commettent. Et en face, les royalistes et les populations civiles qui ne sont pas forcément engagées dans la lutte armée n'ont pas de moyens de mener cette bataille des images, ces campagnes médiatiques. Ils le feront au XIXe siècle, ils le font aujourd'hui au Puy du Fou, c'est-à-dire de raconter...
Ils le font d'ailleurs en s'opposant aux commémorations de Bara à Palaiso aujourd'hui.
Mais voilà,
oui,
complètement, parce que ça c'est l'arme fatale, c'est-à-dire que montrer les atrocités de l'armée catholique et royale. Et... du point de vue de l'enfant, et on aime bien nous s'arracher au passé du christianisme, à la culture chrétienne, mais faut le dire, pour les observateurs de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'enfant Christ aussi. Enfin, on est dans cette culture-là, de même que le Marat assassiné. Donc voilà, c'est l'innocence éternelle.
Les révolutionnaires y voyaient par transparence l'enfant Christ, et nous voyons par transparence, je l'ai dit, les hantises du présent. Reportage d'Arte sur les enfants de Gaza, 20 janvier 2025.
J'étais en train d'entrer dans la cour de l'école. J'avais juste fait quelques pas quand la bombe a explosé. J'ai été projeté à quelques mètres, juste à côté de la tente blanche. C'est ici que le missile a frappé. Il a perforé le plafond avant de toucher le sol. J'ai vu des flammes, des morceaux de corps humains, des têtes volées en l'air. il y avait une tête juste à côté de moi. J'étais sur le sol, paralysé. Il y avait un bout de barre de fer venant d'un pilier coincé dans ma jambe. Un homme m'a porté vers une ambulance. J'étais terrifié. J'étais entouré de morts et j'étais un des seuls survivants.
À la fin du livre que vous dirigez avec Anne Tournieroux, Enfant en guerre, guerre à l'enfance, Manon Pignot, c'est Bruno Cabane qui écrit la postface, en somme, sur le droit qui, depuis 1924, tente de faire de l'enfant en guerre un sujet de droit. Ça vole en éclats sous nos yeux. Aujourd'hui.
Absolument. Ça vole en éclats sous nos yeux. Et je voudrais quand même rappeler deux, trois petites choses, et notamment des chiffres avant que les représailles s'abattent sur Gaza en 2023. 70% de la population gazaouie avait moins de 15 ans. Donc, concrètement, quand on décide de viser délibérément des civils et des lieux de refuge de civils, que sont des hôpitaux et des écoles, où on sait que sont réfugiés des populations civiles qui sont à 70% des enfants, donc on vise des enfants. Voilà, c'est tout. Et c'est pas des erreurs, c'est pas des... Voilà, c'est délibéré. Alors, le droit international dira un jour, bientôt j'espère, comment on va appeler ces cibles délibérées. Est-ce que c'était intentionnellement préparé de longue date ou pas? Est-ce que c'est un nettoyage ethnique? Est-ce que c'est un génocide? Moi, je considère en tout cas que les représailles israéliennes, elles visent les Gazaouis, mais elles visent les enfants. Et pourquoi elles visent les enfants? Parce qu'elles visent l'avenir du peuple palestinien. Parce que les enfants, c'est l'avenir du peuple palestinien.
Et dans ce livre, vous avez aussi reproduit ces affiches terrifiantes hein, des otages israéliens du 7 octobre.
Oui, d'ailleurs c'est, on peut dire que les enfants sont au cœur de cette nouvelle guerre, de ce nouveau conflit israélo-palestinien. Parce que quand il y a eu les attentats terroristes du Hamas en octobre 2023, le 7 octobre, donc ces attentats ont eu cette particularité de viser, comme tous les attentats, des civils, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, indifféremment.
Mais des enfants, mais des bébés.
En particulier des enfants qui ont été emmenés comme otages. Et ça aussi, c'était, on pourrait dire, dans l'escalade de la violence extrême, une étape supplémentaire qui a été franchie.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont connu la terre à feu. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants de leur âge et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim. Sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant. Ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix leur dictait leur destin. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Avec leur mine fière et leurs yeux trop grands, ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et les mains étrangères égorger leur printemps. ses enfants, sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblait sans défense, de peur et de froid, qui défiait la souffrance, et taisait leurs émois, mais vivait d'espérance, sont comme toi et moi. Des amants de misère, de malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
Bonjour Éléonore Chaline.
Bonjour.
Alors maintenant, on se pose des questions. Comment on va photographier nos enfants?
Dans le journal Libération du 4 juin 2025, paraissait une tribune de Marion Zilio intitulée « Parents, vous photographiez trop vos enfants ». Mais avant de les photographier trop comme aujourd'hui, comment les photographiait-on avant? Sur l'une des plus anciennes caricatures représentant des photographes et leur public, la daguerréotypomanie du dessinateur Théodore Morisset, on peut voir ce détail, un enfant résiste à la pose imposée devant un énorme appareil photographique. Son corps se cabre, la mère lui tient un bras tandis que la bonne lui tient un pied. On est en 1839 et c'est de là que les enfants tirent leur réputation qu'il serait particulièrement difficile.
Ça doit certainement être de là. Ouais.
Mais très vite, comment photographier l'enfant devient un sujet. Sur les photographies des années 1840, les enfants posent le plus souvent accompagnés de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Comme la photographie coûte cher, on pose plus volontiers en groupe, en famille, et l'enfant n'est pas si souvent que cela individualisé. On photographie peu les nourrissons, sauf baptême du prince impérial, sauf mort prématurée. Pendant tout le 19e siècle, le plus souvent la pose est raide, assise, l'enfant endimanché. Il pose sur un fauteuil, parfois avec un jouet, une poupée. On ne voit pas d'enfants en colère. Et vous avez remarqué comme les enfants ont souvent l'air tristes ou graves sur les photographies du 19e siècle.
Tout le monde dit oui autour de là.
Il ne faut plus bouger. Ouais. Donc l'attitude doit être tenable pendant de longues secondes, voire minutes. La pose souriante n'existe pas car le sourire, quelque part, deviendrait une grimace. Mais surtout, il va en fait se sourire contre le maintien dans l'espace public. L'enfant est un adulte comme les autres, il est préparé pour la photographie, parfois en costume de marin, comme Kafka, parfois en costume militaire, en robe de baptême ou de communiant.
Alors et j'imagine qu'on doit donner des conseils.
On donne beaucoup de conseils, puisque en fait le propre de l'enfant, c'est cette idée, si on ne les prévient pas, leur mouvement continuel empêche la photographie, si on les prévient, ils perdent leur naturel et se mettent à poser. Donc il faudrait les photographier en plein air, gagner leur confiance, comme le font les médecins, agiter des jouets, ne pas trop les endimancher, donc ne pas les photographier dans des poses ridicules. Et on se met en fait progressivement à rechercher leur insouciance, leurs attitudes favorites, leur vivacité. Et en fait, ce que ça dit aussi, c'est que la norme expressive a changé. Et ça va se faire au tournant du XXe siècle, mais surtout dans l'entre-deux-guerres. La modernité photographique, finalement, invente le naturel de l'enfant, invente cette idée de capturer sur le vif et donc va se mettre à changer finalement l'image de l'enfance finalement qu'on peut trouver dans les photographies. Et qu'est-ce qui a changé? C'est pas juste l'instantané, c'est pas juste la technique photographique qui permet désormais d'avoir des temps de pose très courts, mais c'est plutôt cette idée qu'il faut désormais saisir les expressions de la vie quotidienne, et c'est cette expressivité, ces attitudes naturelles qui sont recherchées. Donc on pourrait conclure que le naturel photographique s'invente lui aussi. C'est aussi le cas du sourire, comme l'a montré tout récemment un essai malicieux d'André Gunther. Pourquoi sourit-on en photographie?
Oui, ça c'est vrai, pourquoi? Au fond, merci Éléonore Chaline. Cette question de l'authenticité du portrait de l'enfant, c'est un enjeu aussi pour les autres arts et avant même la photographie, au-delà des modèles, justement, Stéphanie Deschantanes.
C'est vrai que dans cette première moitié du 19e siècle, on voit une évolution du genre du portrait qui n'est plus réservé à une élite sociale aussi. Et l'enfant a droit au portrait et on le montre sous ses spécificités, sous sa spontanéité, effectivement en train de jouer à la poupée, en train de jouer du tambour. Et ce qui est troublant justement, c'est de voir que parfois la peinture ou la sculpture montre une plus grande spontanéité que la photographie, qui est pourtant l'art de transcrire le réel. Il y a beaucoup d'accointances entre tous ces médiums, mais finalement cette spontanéité, elle est la trace du génie des artistes qui arrivent à saisir la vivacité de l'enfance.
La spontanéité de l'enfance, vous l'avez saisie aussi, Manon Pignot, dans vos premiers travaux, je l'ai dit, dans leurs dessins.
Oui, parce
qu'ils n'ont pas d'ailleurs son modèle eux-mêmes, on peut pas dire non plus.
Non, qui sont très inspirés même parfois, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension, enfin le dessin est une forme de parole alternative, et donc on a effectivement l'impression de... Peut-être d'ailleurs assez trompeuse de saisir quelque chose de très spontané. Mais je voulais juste, la chronique de votre sociétaire m'a fait penser à quelque chose quand elle évoquait les portraits au 19e siècle des enfants morts, et des enfants morts en bas âge. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui revient dans la question du deuil périnatal. Et c'est assez récent, ça a quelques années, je dirais seulement, le fait que les parents endeuillés, les couples endeuillés, éprouvent le besoin de photographier et de se faire photographier avec leur enfant mort avant terme ou mort peu de temps après la naissance. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, justement, dans cette période où on photographie beaucoup trop les enfants, y compris quand ils se brossent les dents, quand ils vont aux toilettes, et voilà, toutes sortes de choses, finalement, dont la postérité n'a pas spécialement besoin de garder une trace. Et je trouve ça, je pense que ça dit aussi quelque chose peut-être de cette universalité de la photo qui au 19e et aujourd'hui remplit cette même
fonction. On avait consacré une émission au portrait posthume. Éléonore Chaline, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, en fait, c'est à la fois au 19e, on est quand même dans quelque chose de la rareté photographique qu'on a perdu aujourd'hui, qu'on n'a plus du tout. Et ce portrait post-mortem, quand on en parle aux étudiants, ils sont toujours assez surpris, en fait, de cette attitude face à la mort. C'est à la fois, c'est souvent l'unique portrait qu'on aura du défunt, qu'il soit d'ailleurs jeune ou pas jeune. Et le fait que ça revienne aujourd'hui, c'est aussi intéressant, justement, parce qu'on a souvent analysé cette question par rapport à la question de comment on voit la mort, comment on la ressent. Bon, voilà, c'est aussi comment on peut lire des évolutions de pensée vis-à-vis de l'enfance ou vis-à-vis de la mort par le biais des images, quoi.
Avec le David d'Angers, d'ailleurs, on est en 1838, donc on est d'une certaine manière à l'orée de cette histoire qui commence, celle de la photographie. On s'est d'ailleurs souvent posé la question, vous qui avez travaillé aussi pour le cinéma, pour le théâtre, pour la reconstitution, même virtuelle à la Conciergerie, Guillaume Mazot, qu'est-ce qui serait passé si la Révolution française avait été photographiée? Il s'en est fallu de peu, finalement.
Je sais pas, mais il y a le dessin pour ça.
Oui.
Le grand art pour fixer le temps, attraper le temps très court de la Révolution, etc. C'est vraiment les dessinateurs. Et alors, qu'est-ce qui serait passé? J'en sais rien. mais peut-être on aurait plus conservé, parce que le dessin, c'est pas un art qu'on a. Enfin, c'est souvent des choses qui sont pas exposées, peu utilisées. Et peut-être que la culture visuelle de la Révolution française serait un petit peu plus patrimonialisée, passée dans notre culture commune.
T'as vraiment décidé qu'on chiale, me déclare Manon Pignot. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'était une émission sur les pleurs aussi de l'enfant en guerre et de la guerre à l'enfance. C'était Allons-y voir. En tout cas, merci à vous quatre. Stéphanie Deschantanes, Manon Pignot, Guillaume Mazot et Éléonore Chaline. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit, à la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
whispers.